Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussaoupondé.
L'Office congolais de contrôle procède au prélèvement des échantillons de farine de maïs dans les marchés et entrepôts de l'espace Grand Katanga. Cela pour se rassurer davantage et faire respecter la mesure interdisant l'entrée de la farine impropre à la consommation en provenance de la Zambie. Poursuite des greffiers, comptables et secrétaires des cours, tribunaux et parquets de Kinshasa par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour détournement présumé des recettes judiciaires. C'est à l'issue de l'audit auprès des services d'assiette fiscale au sein de l'appareil judiciaire. Docteur Michel Tosalisana, médecin chef de zone de santé de Beni, est notre invité ce matin. Il fera le point de la situation du monkeypox dans cette entité. Bonjour à tous. Dossier farine de maïs contaminée à l'aflatoxine en provenance de la Zambie. L'Office congolais de contrôle, OCC, va procéder au prélèvement des échantillons de farine de maïs au niveau des marchés et entrepôts dans l'espace Grand Katanga pour se rassurer davantage et ce, avec la mise en contribution d'un laboratoire certifié basé dans le Haut Katanga. Cette mesure fait partie des décisions prises hier lundi à Kinshasa au cours de la réunion stratégique dirigée par le secrétaire général au commerce extérieur avec les responsables des services des différents ministères. L'objectif étant de faire respecter la mesure interdisant l'entrée de cette farine impropre à la consommation de la Zambie vers la RDC. On écoute Jules Mouiloumbo dans ses propos recueillis par Alain Rung.
Nous avons profité de cette occasion également pour demander à tous les services de mener des enquêtes. Des enquêtes quant au stock dont disposent les principaux distributeurs, le plus précisément dans la partie sud de notre pays. Nous avons également demandé à l'OCC, qui est une structure spécialisée dans le contrôle des qualités, de procéder au prélèvement des échantillons, lesquels échantillons seront analysés dans un laboratoire attitré, parce que le microbe dont est question n'est peut pas être analysé dans n'importe quel laboratoire. Alors, il s'est fait que nous avons l'avantage qu'au pays, nous venons d'avoir un laboratoire qui est à mesure de le faire. Et donc l'OCC va travailler en collaboration avec ces laboratoires, sinon ça sera fait à l'étranger, mais dans le meilleur délai, pour que des résultats qui sortiront de cette analyse, nous puissions finalement apaiser la population. Il est important que je relève ici que déjà des premières analyses qui ont été faites au niveau de tous les laboratoires de l'OCC dans le pays, les principaux laboratoires de l'OCC, on n'a pas retrouvé cette aflatoxine dans les analyses déjà menées. Donc ça nous rassure un peu.
Parmi les participants à cette réunion figuraient les experts des ministères dont l'agriculture, pêche et élevage, économie nationale, santé publique et commerce extérieur, mais aussi les représentants de l'Office congolais de contrôle OCC, de la police nationale congolaise, de la Fédération des entreprises du Congo FEC et de l'Association des consommateurs des produits vivriers, tous membres de la commission sanitaire et phytosanitaire. En justice, plus d'une dizaine de greffiers, comptables et secrétaires des cours, tribunaux et parquets de Kinshasa font l'objet des poursuites de la part du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux enjoint au procureur général de poursuivre les concernés pour détournement présumé des recettes judiciaires. Le ministre de la Justice applique les recommandations de la Cour de compte contenues dans son rapport d'audit auprès des services d'assiette fiscale au sein de l'appareil judiciaire. Cet audit a été effectué sur 43 entités de cour, tribunaux et parquets de la ville. La cour a peint un tableau sombre démontrant comment les réseaux de détournement des deniers publics et corruption opèrent en toute tranquillité et impunité au sein des services judiciaires censés instaurer l'état de droit, selon le ministre. Et puis, au sujet de la conclusion des débats au procès contre les présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa, à l'audience publique hier lundi, devant le tribunal militaire à la prison de Ndolo, une dizaine des parties civiles ont plaidé contre les prévenus pour la réparation des préjudices subis lors de l'aventure de la nuit du 18 au 19 mai à la résidence de l'ancien ministre de l'économie, Vital Kamerhe, et au palais de la Nation. Le ministère public a débuté son réquisitoire qu'il va poursuivre aujourd'hui mardi. Puis ce sera le tour de la défense de plaider. Jeff Ngoy pour les détails.
Parti civil La République pour le compte de l'État congolais, établissement Momo Auberge 19, Foster Egwake, Jackson Kalala et consorts. Toutes ces parties, dont certaines sont en même temps prévenues, sollicitent des réparations exorbitantes. La plus grosse valeur pécuniaire réclamée aux trois prévenus américains est de 250 millions de dollars. Selon La République, le pays a subi un préjudice moral et matériel par le fait qu'il a été présenté comme instable et où règne la misère. Plaide ces partis civils qui s'en remettent à la sagesse du tribunal pour le cas Jean-Jacques Ondo, Auberge Momo et quelques prévenus en quête d'emploi mais désabusés par Christian Malanga. Quant au ministère public, c'est avec hargne qu'il charge les prévenus, principalement l'expert militaire Ondo, qu'il désigne comme le stratège, le financier et organisateur intellectuel du mouvement New Zaïre de fait Christian Malanga. Commencé le 1er juillet, le procès n'a pas élucidé plusieurs zones d'ombre. Des questions sur le commanditaire de cette aventure, l'objectif de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe sont restés sans réponse. Aux juges d'en tirer leur intime conviction.
Rendons-nous au Kassai central. À quelques jours de la rentrée des classes, le gouverneur de province fixe les frais scolaires pour les élèves dans les écoles. Dans un arrêté signé et rendu public le week-end, Joseph Moïse Kamboulou souligne d'abord le caractère gratuit de l'enseignement au niveau primaire. En maternelle, les frais scolaires sont fixés à 3000 francs congolais et payables par tranche par les parents. 1000 francs congolais pour le Minerval par an et 1000 autres pour le bulletin, indique le directeur de cabinet du gouverneur. Pour le secondaire, Jurin Gandou revient ici sur le coût et les modalités de paiement à différents niveaux dans cet extrait choisi par François Kadima.
Au niveau secondaire, l'enseignement n'est pas gratuit. Toute perception s'accompagne immédiatement d'un récit remis aux contribuables par les chefs d'établissement. 7e et 8e année, les frais scolaires sont fixés à 5000 francs par mois et par élève. Pour le cycle secondaire général, humanité pédagogique, scientifique et littéraire, les frais sont fixés à 6500 francs congolais par mois et par élève. Pour l'enseignement technique et les cycles courts professionnels, technique sociale, les frais sont fixés à 7000 francs congolais par mois et par élève. Technique commerciale, construction, coupe et couture, mécanique, électricité et agricole, les frais sont fixés à 8000 francs par mois et par élève. Cycle courts professionnels, les frais sont fixés à 8000 francs par mois et par élève. Tous ces frais si haut énumérés sont payables en une seule tranche ou par échelonnement selon les possibilités des parents.
Dans le territoire de Loubero, au Nord Kivu, la rentrée scolaire demeure hypothétique dans plus de 16 écoles du secteur des Bapéré. C'est la société civile locale qui l'a dit hier lundi. Cette structure citoyenne affirme en effet que plusieurs villages restent vidés de leurs habitants depuis les attaques des rebelles des ADF il y a 2 mois. Elle appelle les autorités militaires à pacifier la zone. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Il s'agit de plus de 12 villages qui restent jusqu'à présent vidés de leurs habitants. Ce village compte plus de 16 écoles qui risquent de ne pas ouvrir leurs portes le 2 septembre prochain, comme l'explique Samuel Kaini, le président de la société civile du secteur de Bapéré.
La rentrée scolaire est purement hypothétique dans certaines agglomérations parce qu'une grande partie de la population s'est déplacée via les exactions du présumé ADF Nalu. Peut-être la rentrée sera tardive compte tenu de la situation qui prévaut dans le secteur de Bapéré. À une semaine de la rentrée scolaire, et les autorités militaires devraient diligenter des traques parce que si l'ennemi serait neutralisé, automatiquement la paisible population aura une confiance de retourner dans ces zones. Les autorités militaires devraient faire de tous leurs moyens pour que la paix revienne dans ces zones.
Pour rappel, c'est depuis environ 2 mois que le secteur de Bapéré est secoué par des attaques de rebelles des ADF, attaques qui ont causé mort d'hommes et provoqué un déplacement massif de population vers des milieux sécurisés, notamment la ville de Butembo. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, un accord de cessez-le-feu a été signé le 30 juillet dernier entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola pour mettre fin aux hostilités dans l'est du pays. Moins d'un mois après sa signature, des affrontements ont éclaté le week-end dans les territoires de Masisi et Lubero au Nord Kivu, mettant en lumière les nombreux défis à la surveillance et au respect de ces cessez-le-feu. Le point de Martial Papimukeba.
Le premier défi réside dans l'absence pour l'instant des mécanismes et d'observateurs internationaux neutres pour assurer une surveillance efficace. Il n'existe pas non plus des zones tampons entre les belligérants qui seraient surveillés par une force ou des observateurs indépendants. De plus, la présence des multiples acteurs armés dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Lubero complique davantage la situation. Outre la rébellion du M23, plusieurs autres groupes armés opèrent dans la région, souvent en défiance des autorités congolaises et des casques bleus de la MONUSCO. Ces factions peuvent facilement ignorer ou violer les cessez-le-feu. La proximité des positions avancées des belligérants augmente les risques de reprise des affrontements. Les combats violents de ce week-end entre les groupes armés locaux et les M23 dans les Masisi, ainsi que ceux entre les FRDC et les M23 dans les Lubero, illustrent bien ces dangers. Un autre défi majeur est la méfiance entre les parties en conflit exacerbée par les accusations des soutiens du Rwanda au M23 qui dit ne pas être concerné par les cessez-le-feu. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, 4 personnes ont été tuées sauvagement à l'arme blanche dans leur maison par des personnes non encore identifiées dans la nuit de dimanche à hier lundi à Kisangani. L'incident s'est produit à 10 km du centre-ville vers les installations de la société SEP Congo. Néanmoins, la société civile inscrit ce quadruple meurtre dans le cadre du conflit intercommunautaire dans la zone. Le point avec Jacques Mkonkole.
Selon des sources sécuritaires, les assaillants sont venus du côté des Lubunga. Ils ont donc traversé le fleuve Congo pour la rive droite où ils ont commis leur forfait vers 1h du matin. Ils ont exécuté les 4 personnes à l'arme blanche dans leur maison. Parmi les victimes, 2 femmes, un homme et un enfant d'environ 10 ans. Les mêmes sources attribuent ce meurtre à des personnes qui seraient venues de la rive gauche pour venger leur frère tué samedi dernier à Yalisombo. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital vers 4 heures par un véhicule de la police alerté par la population. La société civile saoudi à Lubunga se dit inquiète de l'ampleur que prend ce conflit intercommunautaire. Héritier Isomela demande aux autorités d'organiser une table ronde afin de trouver des solutions à cette crise qui endeuille les populations de la Tchopo. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À propos justement de ce conflit intercommunautaire, notez cette réaction du député national Loti Kalikwela, élu de la circonscription de Kisangani. Ce conflit qui continue à faire des victimes a malheureusement tendance à se généraliser. Nous invitons le gouvernement à agir au plus vite pour le stopper, car la population boyomaise en a marre, déclare-t-il. On l'écoute au téléphone de Pelekipela Mondo.
Nous en avons assez, franchement. Le peuple boyomais en a marre de cette situation. Voilà pourquoi nous venons pour la énième fois attirer l'attention du gouvernement de la République sur cette situation de l'insécurité. Il y a quelques mois, le gouvernement de la République, via la vice-primature de l'intérieur, a promis d'organiser un forum sur la paix et la sécurité dans la province de la Tchopo. Il est donc appelé maintenant à tenir cette promesse, car ça fait bientôt, je pense, 3 mois que le leader communautaire de la Tchopo attend la tenue de ce forum pour fumer une fois pour toutes les calumets de la paix. Donc cette situation n'a fait que durer. Chers membres du gouvernement, on n'en peut plus. Nous vous appelons à prendre conscience, à être sensible sur cette situation qui a déjà endeuillé plusieurs familles.
En politique, lors de l'élection du bureau définitif du Sénat le 12 août dernier, il était candidat rapporteur mais avait choisi de désister au second tour face à la sénatrice Nefertiti. Justin Kalumba avait cependant toutes les chances de l'emporter puisqu'il avait obtenu au premier tour 36 voix contre 29 à cette dernière. C'est au cours d'une conférence de presse hier lundi à Kinshasa que le sénateur Justin Kalumba est sorti de son silence pour justifier sa décision. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
Ce désistement n'a pas été un choix facile à opérer. Comme j'étais arrivé en tête des suffrages à l'issue du premier tour, il n'était pas spontanément compréhensible, ni pour mes partenaires politiques. Là, je pense à mes collègues sénateurs, je pense à mon propre regroupement politique, à ACPG, ni pour mon équipe de campagne, dont je vois certains membres dans la salle, qui étaient totalement opposés à mon désistement. Encore moins pour moi-même. de retirer ma candidature entre les deux tours afin de laisser la place à la femme. Ce désistement n'a pas été marchandé à coup d'argent, j'insiste sur ça, ou même contre une promesse quelconque d'argent. C'est non, ni en échange d'un autre poste, non. Ce désistement a été un choix opéré en âme et conscience, uniquement dans le but de solutionner un vrai problème qui s'est profilé à l'horizon. J'ai résolu, en âme et conscience, d'éviter à notre pays le risque d'afficher un bureau totalement masculin.
Au chapitre santé, sachez que des cas suspects de monkeypox sont enregistrés dans la zone de santé de Kisantu au Congo central. À ce jour, ces malades, au nombre de 10, présentent des éruptions cutanées et de la fièvre. Le médecin chef de zone de santé qui livre l'information à Radio Okapi indique que tous ces malades sont traités en ambulatoire faute d'une structure de prise en charge appropriée. La même source ajoute que la zone de santé de Kisantu connaît d'énormes difficultés liées au manque de kits de prélèvement et des médicaments.
Actualité internationale.
Une session de l'OMS s'ouvre alors que le monkeypox se propage. La 74e session du comité de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé a commencé hier lundi à Brazzaville. La réunion d'ouverture s'est tenue devant 650 délégués venus de 46 pays pour une session qui doit durer jusqu'au 30 août, alors que la propagation de la variole du singe sur le continent préoccupe de plus en plus l'OMS.
L'invité.
Plusieurs zones de santé du Nord Kivu sont déjà atteintes par l'épidémie de monkeypox, une situation préoccupante pour la zone de santé de Beni, affirme le docteur Michel Tosalisana, médecin chef des zones. Il s'entretient ici avec Sadiq Aboubakar.
Docteur Michel Tosalisana, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelles sont les stratégies mises en place par la zone de santé de Beni pour éviter toute notification des cas de monkeypox?
De manière habituelle dans notre système de santé, nous avons ce qu'on appelle la surveillance intégrée des maladies ripostes et qui fait que à chaque jour nous suivons les événements à partir de la communauté et en passant par les centres de santé et BCZ et puis nous remontons au niveau de la division provisoire de la santé qui à son tour fait le relais avec le niveau national. Alors lorsqu'il y a une urgence qui est déclarée comme celle-ci, il y a déjà des cas dans certaines zones même qui nous avoisinent. Nous sommes déjà en alerte et le ministère a déjà tout préparé pour que nous puissions faire face à cette nouvelle maladie. Et tout ça avec le concours de la communauté parce que sans la communauté, nous ne pouvons rien faire. Et la semaine passée, nous avons tenu une formation avec les présidents des comités de santé. Vous comprenez là que c'est la représentation de la population par excellence. Ceci à leur tour, ils ont passé le message au relais communautaire par rapport à la prévention de Mpox, mais aussi d'autres maladies que nous avons déjà connues ou bien que nous pouvons connaître.
Alors, la région de Beni et Butembo est une zone réputée à la désinformation, ce qui a justifié la longueur et la dangerosité de la 10e épidémie d'Ebola dans cette partie du pays. Quel message direct et clair pourriez-vous donner à la population?
Bon, il y a quand même cet degré de résilience par rapport à la gestion des épidémies. C'est pourquoi ces communications sont faites. Nous sommes confiants que la population avec laquelle nous travaillons et que nous remercions à passant, elle sera aussi favorable à la sensibilisation contre cette maladie. Parce que c'est une maladie qui revient, mais les générations anciennes connaissent via la variole. Et quand on parle de variole, c'est tout le village qui est mobilisé. Je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour échanger avec notre communauté.
Oui, effectivement, la zone a su vaincre la plus longue et meurtrière épidémie d'Ebola du pays. Et voilà une autre épidémie, le Mpox, qui présente des similarités avec Ebola. Peut-on dire que la zone dispose plus d'expérience et d'acquis capables à faire face à cette nouvelle épidémie dans le pays?
Je pense que les compétences, il y en a. Et tout ce qu'il faut, c'est toujours renforcer la logistique parce que parfois on a besoin de beaucoup d'équipements pendant une période comme celle-ci, beaucoup de mobilisation.
Dans moins d'une semaine, il y aura rentrée scolaire dans le pays, il y aura engouement des enfants dans des écoles et pourtant des mesures préventives contre la maladie nécessite à ce qu'il y ait une certaine distance. Est-ce que la zone de santé a pris des dispositions particulières par rapport à cet aspect?
Je suis content de cette question. En fait, la zone de santé de Bénin est une entité de la province et de la République démocratique du Congo. Pour lutter efficacement contre les maladies aujourd'hui, il faut une approche qu'on appelle One Health. Ça veut dire que le domaine de la santé et de l'environnement et tous les autres secteurs doivent contribuer à la lutte contre les maladies. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté aujourd'hui est un ministère qui est prioritaire par rapport à la collaboration avec le secteur de la santé. Je suis persuadé que les mesures seront prises par les autorités au niveau national et qui seront répercutées dans notre province de la zone de santé.
Pour finir, docteur, comment se manifeste la maladie du Mpox et comment faire pour prévenir?
Et avant tout, c'est la fièvre et des maux de tête et des douleurs articulaires et musculaires. Mais le plus important, ce sont les éruptions cutanées. On peut alors à ce stade-là confondre avec d'autres maladies comme la varicelle, pourquoi pas même la gale. Il faut éviter des rassemblements, des attouchements, donc les contacts sous leur forme. On sait maintenant que se laver les mains, ça ne doit pas venir nécessairement de l'infirmier, mais de manière spontanée. Et donc, ceux-là qui avaient déjà abandonné cette pratique-là, nous les rappelons, alors de qu'ils reprennent rapidement avec cette pratique-là. Et comme on est en train de nous le dire aussi, la voie sexuelle est parmi les voies les plus répandues pour la propagation de la maladie.
Docteur Michel Tosalissana, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Coordonnée par Pelé Kipelamondo et mise en onde par Debs, Vita, ce journal prend fin. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi.